in the spot. So before he pops some shit, I did the opposite and stole him. Blackest lady tried to hold him like Big Pun. I stole him and told him I ain't a shooter, I just punch a lot. Between blows, this Vic tried to up his block. His brother watched Spooks like me daddy on Teenage Love. He got beauty to my tape, I seen nigga Doug. Got his dome in a hug. Muff this brought back with one hand. Tried to pop, it must have been a knife, cause the gun jam. Unplanned, I disarmed this trick. Nigga, pistol whipped his ass. His ladies, I was prominent. Holland 87, rain dominant. Needed a fight that night. Me and my woman had an argument.
Guess I should tell you a little something about myself.
I bang with the big boys, those who hold me.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Longtemps je me suis couché de bonne heure, Francis Gavel au micro. Et pour ouvrir cette chronique musicale, parlons semences. Alors semences biologiques, libres de droit et reproductibles, graines de résistance aussi à la manne financière agroalimentaire. Parce que, en effet, si je vous dis, chères auditrices, chers auditeurs, Cocopelli avec deux L, vous pensez forcément à une association ariégeoise qui œuvre à une résistance bio sans frontières. Mais si je vous dis Cocopelli avec un seul L, que me répondrez-vous? Sans doute qu'au départ, il s'agit d'une petite divinité amérindienne, symbole de fertilité, on en revient aux semences, mais également troubadour espiègle, souvent représenté flûte au bec. Au passage, son nom s'orthographie aussi avec deux L. En tout cas, ici, avec un seul L, il s'agit d'un duo formé depuis 2020 par deux musiciennes, Carla Siméon et Julie Trouvé, et qui propose de fait un premier EP 5 titres, Family Affair. D'ailleurs, étonnamment écrit sur la pochette du disque En ma possession, avec deux L, alors qu'en anglais, le mot ne prend qu'un seul L. À moins qu'il ne s'agisse d'une espièglerie inspirée par un petit dieu taquin qui se jouerait des frontières orthographiques et mêlerait le famille français aux familles anglo-saxons. Un peu finalement comme ces deux autrices, compositrices, interprètes qui chantent bilingues et se révèlent être cousines à la ville. Alors voilà, je ne sais pas si je suis très clair avec mes histoires d'un L ou de deux L, mais c'est normal, je rentre de convalescence après une intervention médicale à caractère neurologique. Ce qui est sûr, c'est que nos deux artistes possèdent les deux ailes des anges, tant la grâce habite leurs chansons. Du petit bijou pop Boston écouté à la prise d'antenne à Mania sous influence africaine et que nous écouterons en cours d'émission, les titres de Cocopelli confirment à qu'auditeurs et auditrices le talent instrumental des musiciennes, non contentes de s'illustrer au chant et à la guitare, Julie Trouvé et Carla Siméon officient de plus à la contrebasse et au ngoni dans sa facture malienne, autrement dit avec calebasse et long manche, et exposent par ailleurs la douceur cristalline de voix qu'elles harmonisent depuis leur tout début, à l'âge de 7 ans, dans les fêtes familiales. Ce disque est donc bien une affaire de famille, de celle qui offre un berceau réconfortant quand la tristesse teinte cœur et âme, mais de celle aussi qui permet de passer de l'enfance à l'âge adulte sans cesser de jouer. Et on notera, après un concert au Folies Bergères le 13 octobre dernier en première partie de Cœur de Pirate, que Cocopelli sera de retour en concert le 21 novembre au Trois Baudets à Paris dans le 18e. Voilà, c'était la première chronique musicale de cette émission du mois d'octobre. Et je me tourne tout de suite vers Thomas Fouet. Bonjour Thomas et je te passe la parole.
Merci Francis, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau tour d'horizon des sorties en salle. Avec moi aujourd'hui, autour de cette belle table ovale tachetée de petits points délicats, Florent Boutet et Gaël Rère de la rédaction des Fiches du Cinéma. Bonjour Florent, bonjour Gaël, comment allez-vous?
Bonjour Thomas, il est tôt, mais enfin on fait aller, écoute.
Magnifiquement, comme tout un samedi matin.
Avez-vous vu de belles choses au cinéma ces derniers temps et allez-vous nous en parler?
C'est possible, je te cache pas.
Fort bien, voilà qui fait nos affaires. Francis, bien évidemment, se joindra à nous pour évoquer certains des films du jour. Nous sommes donc le samedi 26 octobre. Arsenal est toujours 3e de Première Ligue, Amiens 6e de Ligue 2 et Sochaux 7e de National. J'ai une petite pensée pour le camarade Clément Deléchaud. Voilà, chères auditrices, chers auditeurs, vous savez tout ce qu'il y a à savoir qui procure de la joie et de l'élévation, excepté pour les arts et lettres élargis aux activités mécaniques. Et justement, nous y venons avec le premier film au programme de cette table ronde critique, j'ai nommé Miséricorde, d'Alain Guiraudy, qui est d'ores et déjà en salle. Le sujet, en quelques mots, depuis Toulouse où il vit, Jérémy se rend au village de Saint-Martial pour l'enterrement de son ancien patron, boulanger. Il est accueilli par Martine, la veuve du défunt, et par Vincent, son fils, dont autrefois il était proche. Après l'enterrement, Martine propose à Jérémy de rester pour la nuit. Finalement, il s'installe pour plusieurs jours et en profite pour rendre visite à Walter, un ancien ami du village. Je m'arrête ici, libre à vous de continuer. Je cite Nicolas Marcadet dans Les Fiches du Cinéma, une revue que je vous recommande, et pas seulement parce que j'en suis le salarié et que ça me permet de payer le loyer. Nicolas, donc, nous dit la chose suivante. Après s'être frotté à la ville et aux contemporains d'en rester vertical et surtout « Viens, je t'emmène », Alain Guiraudy repart dans un lieu un peu hors du monde pour renouer avec des récits plus intemporels. Ici, tout semble en quelque sorte essentialisé. La forêt, le village, la mer, le curé. Dès lors, le conte peut commencer. Guiraudy pose alors ses bagages dans une sorte de sobre classicisme qui, venant de lui, peut dérouter. C'est finalement quand tout se détraque que d'une certaine façon tout rentre dans l'ordre. Le Guiraudyverse reprend le pouvoir avec ses deux axes fondamentaux, la peur et le désir, qui d'un film à l'autre n'en finissent pas de se courir après comme Bip Bip et le Coyote. Fin de la citation. Comme Viens, je t'emmène, son précédent film Miséricorde est adapté d'un segment de Rabelais, le roman de Guy Roddy. Je le confesse, je ne l'ai pas lu, je compte me rattraper bientôt. Et le film était en sélection Cannes Première, au dernier festival de Cannes. Il n'était donc pas en compétition officielle, ce qui n'a évidemment rien d'infamant. Il se dirait même que des films existent en dehors de Cannes, figurez-vous. Mais enfin, celui de Michel Izanavicius y était. Je le cite parce que je sais que Francis l'a vu hier et peut-être en parlerons-nous le mois prochain. Alors il faudra qu'on m'explique un de ces jours. Mais revenons à Miséricorde. C'est un film qui sur le moment m'a laissé quelque peu circonspect, mais qui depuis n'a pas cessé de faire son chemin en moi. Me reviennent notamment, et je n'en dirai pas plus, une scène de confession poignante et les drôles de visites nocturnes d'un gendarme. Vous me direz donc dans un instant autour de cette table ce qu'il en a été pour vous. Autour de Félix Kizil, on y retrouve donc Catherine Fraud, Jean-Baptiste Durand, dont je rappelle qu'il est également l'auteur du césarisé Chien de la casse, Jacques Develet et David Ayala. Et c'est d'ores et déjà à découvrir en salle. Vous avez tous trois vu Miséricorde. Qui veut ouvrir les hostilités ?
Hein ? Gaël. Si tu veux pas. Mais oui, alors, bon, enfin, j'ai envie de te dire, je sais pas pourquoi. Non, mais enfin, un film où je me régale, quoi. Enfin, je veux dire, et quand je dis enfin, c'est pas vrai, parce qu'il y a eu plein de bons films cette année. Mais disons que un truc où je ressens comme ça une espèce de connivence, de jubilation, et que j'ai quasiment le sourire de début à la fin, c'est pas si souvent. Le film précédent de Guy Roddy, Viens, je t'emmène, était assez... il sortait un peu de l'ordinaire, hein, dans son cinéma. Il y avait toujours ce côté un peu... plus que décalé, enfin bizarre, étrange et c'est ce sens comique très particulier. Mais c'est vrai qu'on s'éloignait un peu de son univers habituel entre guillemets. Et là, à la fois, on retrouve la campagne, on retrouve la forêt, on retrouve un petit comité comme ça, en l'occurrence un petit vraiment un bled, tout ce qu'il y a de plus paumé. Et il y a quelque chose dans ce film qui est un peu, je dirais pas qu'il y a tout Guy Roddy, faut pas exagérer, mais il y a quelque chose d'épuré, de concentré, de si complètement Guy Roddyesque que moi ça m'a vraiment complètement réjoui. Alors c'est Nicolas qui dit que il y a une espèce de classicisme qui est un peu inhabituel chez Guy Roddy
dans l'installation du récit. En
ouais.
Cas.
Alors dans l'installation du récit peut-être effectivement moi je trouve que même mais peut-être c'est moi qui projette, tu vois, mais le ne serait-ce que le long travelling de début, tu vois, en voiture, il est tellement long que tu dis qu'est-ce qui va se passer au bout de cette route, tu vois. C'est-à-dire que moi je trouve que c'est peut-être mes attentes si tu veux qui surjouent là-dessus, mais j'ai l'impression dès le début qu'il y a un truc ouf. Il y a anguille, il y a gravement anguille, tu vois. Et le truc, c'est que on ne sait jamais, et c'est le charme, c'est un des grands charmes de Guy Roddy, on ne sait jamais quelles sont les intentions des personnages. On ne sait jamais ce qu'ils ont derrière la tête. On ne sait jamais s'il y a du désir, s'il y a de la peur, s'il y a de la malice, s'il y a de... C'est impossible de décrire la Catherine Fraud, voilà ce qu'elle pense, voilà ce qu'elle veut, le curé, voilà ce qu'il pense. C'est impossible. Enfin, moi, en tout cas, je trouve que c'est extrêmement réjouissant. Quand il y a des personnages qui se bagarrent, tu ne sais pas si c'est vraiment de la... un antagonisme, ou est-ce que c'est en fait, c'est des câlins d'une certaine façon, si tu veux. On sait jamais complètement. Et je trouve qu'il y a... Et là, je trouve qu'on le voit encore, peut-être encore plus que dans ses films précédents, une capacité à emmener le trivial et le banal vers le mystère, vers le fantastique, vers pourquoi pas le mystique, le cosmique. Je sais pas trop comment il fait, mais avec trois fois rien, vraiment, on bascule très vite, quasiment vers une dimension parallèle. Là, je me dis, c'est un bled, il y a voilà, l'histoire du boulanger, le gendarme, il y a rien, si tu veux, mais c'est une espèce... très vite, tu bascules dans une espèce de Bernanos, tu vois, le journal de curé de campagne, mais un Bernanos, si tu veux, en porte-jartel, tu vois, un peu queer, un peu un peu voyou, un peu canaille, tu vois, le curé, qui serait presque la projection de Guy Roddy à l'intérieur du film, il a cette espèce de d'œil en coin, il a cette espèce de malice, alors, on va chercher les champignons, ah, c'est comme ça, vous cherchez les champignons, bon, c'est... Voilà, il faut aimer. Mais si on est un petit peu sensible à l'univers de Guy Roddy, si on a bien aimé L'Inconnu du Lac, par exemple, je pense qu'on a tout intérêt à y aller. Moi, encore une fois, voilà, je trouve qu'avec trois fois rien, il nous emmène vers à la fois des
considérations très importante, je veux dire, sur le désir qui peut se transformer en violence, sur le pardon, sur tout un tas de questions comme ça sans trop dévoiler. Et en même temps, moi je me marre. Enfin, je veux dire, je trouve qu'il y a un humour, il y a quelque chose de piquant, de malicieux qui moi vraiment me réjouit. Vraiment, j'ai adoré ce film. Et puis voilà.
Florent.
Bah écoute, je t'envie d'avoir des évidences pareilles face à Alain Guiraudy, parce que moi j'ai un rapport avec lui qui est très différent, c'est-à-dire que je prends un coup de vieux quand je me rends compte que c'est quelqu'un que j'ai découvert il y a déjà 11 ans dans L'Inconnu du Lac, parce que j'avoue que j'ai pas du tout vu, je crois qu'il en a fait 4 ou 5 avant, enfin c'est quelqu'un qui tourne depuis plus de 20 ans, et qui, alors à ma grande surprise, parce qu'il fait quand même pas des films faciles, c'est quand même pas des choses qui sont évidentes, et pourtant qui a une adhésion, mais qui est énorme au sein des cercles cinéphiles. Je veux dire, là, ce film-là, j'ai pas l'impression qu'il y ait une voix discordante dans la presse, sur les retours critiques. C'est quand même très étonnant. Alors moi, j'y vais avec réticence parce que je me suis jamais retrouvé dans aucun. Je me rappelle que L'Inconnu du Lac avait été une grande incompréhension de ma part. Parce que je m'y retrouvais vraiment très peu et que j'ai un souvenir épouvantable de rester vertical à 8h30 à Cannes avec cette scène d'accouchement. Vraiment, j'étais pas prêt. Enfin, c'est quelqu'un qui me malmène depuis plus de 10 ans et qui me remue. Et là, ça n'a pas fait exception. C'est-à-dire que je vais face au film et avec tout cet emballement critique, et je me dis quand même, il faut quand même que je creuse les choses. Et j'avoue que le film m'a beaucoup remué. Il m'a beaucoup déstabilisé. Et quand je réfléchis un peu, je me dis, quand je me mets moi-même en abîme, je me dis, c'est plutôt une bonne chose, finalement. Parce que j'ai beaucoup réfléchi sur le film et beaucoup plus que je ne l'aurais cru. Et c'est vrai que déjà, quand tu vois la direction artistique du film, c'est quand même assez exceptionnel. Il faut quand même reconnaître 2-3 points. C'est Claire Maton à la photo. Et c'est pas une photographie, une direction artistique qui serait gratuite et qui serait illustrative. Non, il y a vraiment une espèce de continuité dans le sillon de l'écriture où elle plante justement ces espèces de plans avec la nature, avec des choses complètement incroyables et des moments de silence qui sont vraiment, vraiment sublimes. Ça, c'est un truc que j'ai envie de souligner. C'est que dès qu'il laisse le temps aux acteurs de regarder, il se laisse le temps, il se donne le temps de regarder les acteurs. Il y a quelque chose de génial qui se passe et qui se passe dans ces moments de silence, dans ces tableaux, dans cette installation du décor. Et cet acteur, enfin, il faut quand même dire un mot sur un nom qu'on n'entend absolument jamais dans le cinéma, Félix Kizil, donc qui a quand même peu de rôles importants, qui jouait le rôle d'un brigadier dans La Police des Mœurs, dans Le Consentement, par exemple, donc une espèce de silhouette qui doit hanter quelques films du cinéma français, mais assez peu. Et qui a vraiment une corporalité, qui a quelque chose d'assez dingue, je trouve, une présence. On se demande même qu'est-ce que fait ce personnage au milieu d'un village qui, pour la peine, est un village comme on pourrait en trouver je crois que c'est dans la banlieue toulousaine, quelque chose comme ça, et qu'on pourrait trouver un petit peu n'importe où dans le sud de la France. Et lui, c'est un petit peu un agent extérieur qui arrive. Et dès qu'il est dans le silence, et quand même, il est assez taiseux, le personnage, il y a quelque chose qui se passe à chaque fois. Il y a des regards, il y a des trucs. Et le personnage m'a vraiment, vraiment bouleversé, m'a vraiment beaucoup interrogé. Il y a aussi une autre qualité mon point va rejoindre ce que tu as dit, Gaël, c'est cette capacité qu'il a, Guiraudy, à t'entraîner dans ce qui est vraiment une comédie, un conte, une comédie. C'est vrai que par moments c'est très drôle. Je dois avouer que oui, ouais, ça, j'ai ri dans ce film, j'aurais jamais cru rire devant un film de Guiraudy. Je sais qu'il fait rire beaucoup de monde, moi jusqu'à présent c'était pas le cas. Et là vraiment je trouve ça très drôle. Et pourtant il y a un fondement de film d'horreur presque. Il y a quelque chose du drame, mais presque du film d'horreur. C'est très inquiétant. Par moment, il y a vraiment, on a un espèce de fond, une atmosphère qui est dans un registre qui n'est pas du tout celui de la comédie, et pourtant la comédie s'installe petit à petit. Et vraiment, c'est, je sais pas comment il fait ça. Il a un art de ce développement narratif que je félicite vraiment, et je pense que ça participe énormément à l'adhésion autour du film. Alors malgré tout, il y a quand même, je suis quand même rattrapé par des incompréhensions successives, et moi je suis désolé, mais tout ce qui se passe autour du curé, mais moi ça m'évacue complètement du film. Je sais que voilà, je comprends très bien dans l'équilibre, dans la construction, et ce qui peut faire rire, et ce qui peut faire adhérer, mais déjà je comprends pas l'obsession qu'a un certain cinéma français pour la génitalité masculine. Quand on voit le curé qui est avec son anatomie redessinée au CGI, un peu comme comme le faisait Laurent Lafitte dans L'Origine du Monde, où tout le monde est surgaulé, on se demande bien pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire. Je cherche toujours l'explication de la chose à cette heure.
Alors, j'avais pas repéré le CGI, mais c'est vrai que je m'étais pas penché sur la question, je m'étais pas interrogé plus avant. Mais...
Ah, bah, c'est un tronc d'arbre qui est entre les jambes.
Les spectateurs se feront leur propre
effet,
idée.
Il y a un effet burlesque tout à fait surprenant, si tu veux, de cette scène qui est tout à fait qui est cocasse.
Ouais, encore une fois, je comprends très bien ce qu'on veut faire, mais par contre, ce que je comprends pas, c'est la démesure. C'est, on en est à un esprit de démesure qui encore une fois est le trait de d'autres types de comédies qui me laissent perplexe, notamment dans la représentation de la virilité, de plein de choses. Je trouve qu'on est dans une caricature qui ne me fait pas rire et qui au contraire me dérange un peu. Et pourtant, il est plutôt joli, ce personnage du curé. Il y a quelque chose de la sagesse et à la fois du burlesque et du grotesque, même du grand guignolesque qui est assez intéressante. Mais elle est tellement réutilisée, cette figure-là, à mi-film à peu près, quand on comprend très bien que ça va être l'allié du personnage principal, son espèce d'alibi, son procureur, ce que vous voulez. Je trouve que ça redouble un petit peu trop et on bascule dans un sordide. Moi qui m'avais complètement épuisé d'en rester vertical avec des scènes au lit avec Damien Bonnard que j'ai même pas envie de répéter tellement elle m'avait éjecté du film. Et là c'est pareil, il y a des scènes comme ça, à un moment donné, ce qu'on appelle le retour à l'univers de Guiraudy, qui est véritablement, voilà, sa marque. Moi ça me, au contraire, je pense que si le film me touche plus, c'est aussi parce qu'il y a une forme de classicisme dont tu parlais, Thomas, et qui avait été signalé par Nicolas dans sa critique, qui permet à des gens comme moi peut-être de pénétrer un petit peu plus dans son univers, qui moi, de manière brute et brutale, a tendance à me laisser à côté, quoi.
Francis.
Oui, alors bon, je vais essayer de faire le point par rapport à tout ça. D'abord, je vais rebondir sur une première chose qu'a signalé Florent, disant j'ai pris un coup de vieux. Alors, qu'est-ce que je devrais dire? Parce qu'en fait, je me rends compte que le premier film de Guiraudy, Du soleil pour les gueux, donc qui est le moyen métrage qui l'a révélé, il date de l'an 2000 et c'est la première fois que j'ai vu un film de Guiraudy, donc ça me rend plus très jeune tout ça. Et puis pour Félix Kizil, je voulais quand même préciser qu'il a été un rôle secondaire important, et puisque tu as mentionné le réalisateur tout à l'heure, je le fais exprès, dans Le Redoutable de Michel Hazanavicius. Et donc j'étais très curieux de voir le passage de Hazanavicius à Guiraudy pour Félix Kizil. Alors après, j'ai envie de parler de la rentrée automnale du cinéma français.
Donc, on va parler de François Ozon peut-être.
Mais rapidement. Donc, ça sera la mode campagne, automne et champignons. Avec donc Une cueillette mortelle dans Quand vient l'automne de François Ozon, et puis des girolles poussant sur Le meilleur des engrais dans Le Miséricorde de Guiraudy.
Des morilles.
Des morilles, voilà. Je me demandais, j'arrivais pas à retrouver quels étaient les champignons dans le Ozon. Donc on aura l'école Morille.
Les chroniqueurs ont tous les talents et toutes les connaissances.
Mais voilà, donc nous aurons l'école Morille et l'école Girolles. Voilà, et je révèle pas quel est le meilleur des engrais dans le Guiraudy. Bon, après, il y a une différence majeure, à mon sens, et peut-être que je contredirais, mais très légèrement, Nicolas Mercadet. C'est que la campagne pour un est peut-être un détour occasionnel, donc pour Ozon, et puis plus un ancrage d'inspiration à mon sens pour le deuxième, donc pour Guiraudy. Alors après, je vais en forcer une porte ouverte parce que c'est un truc que j'ai lu à plein d'endroits, enfin le parallèle avec le théorème de Pasolini. Hein, on a un ange noir, amoral, qui se veut révélateur.
Chose sur laquelle Guiraudy a réagi déjà, je pense, en entretien à plusieurs reprises et dont il se défend.
D'accord. Bah alors, je vais prendre un biais, peut-être, par rapport à tout ce qui a été dit, mais donc, où, effectivement, ce personnage, cet ange noir, se veut révélateur des désirs les plus enfouis. Sauf que moi, j'ai l'impression que chez Guiraudy, les villageois du Rouergue, finalement, sont moins crédules, sont moins naïfs que les bourgeois de Milan, et qu'ils finissent par subvertir celui qui voulait subvertir, à l'image de cette ultime réplique du film que prononce le personnage interprété par Catherine Froux. Évidemment, je ne vais pas la révéler pour ceux qui iront voir le film, quand le jeune homme s'introduit à la toute fin dans son lit. Voilà, donc ça, moi, ça m'a amusé. Je me dis, ça, personne, par contre, ne le mentionne. On s'arrête vraiment... l'ange noir amoral qui vient révéler les désirs. Et puis après, alors là, c'est peut-être l'endroit où je m'inscrirais différemment par rapport à Florent, c'est que j'ai vraiment l'impression que le cinéma de Guiraudy, c'est aussi un cinéma de gueule et de physique. et notamment qu'on est loin des corps sveltes du cinéma français, et sans que ce soit forcément, à mon sens, un effet de comique, et que peut-être le seul qui, à une époque, a travaillé des corps différents, mais peut-être plus avec un effet de comique, c'était pour moi Jean-Pierre Mocky. Et là, on se retrouve, pareil, avec comme ça des physiques hors normes, on va dire, et je prendrai quelques exemples. Évidemment, il y a Raphaël Thierry dans Rester vertical, et c'est peut-être le film qui lance la carrière derrière de Raphaël Thierry, mais il y a aussi un comédien qui est plus un comédien de petit rôle, qui est Michel Maziero dans Rester vertical, et puis là, il y a David Ayala, qui interprète un des personnages annexes, on va
Ludovic Bertillot dans Le Roi de l'Évasion.
Aussi, voilà, qui lui, alors, était carrément un premier rôle.
Effectivement, c'est jamais envisagé à la façon d'un gag, ou au service d'un projet comique, c'est un projet politique pour Guiraudy, je pense.
Voilà, c'est l'impression que ça me donne. Et donc, il y a ces physiques. Et quand je dis qu'il n'y a pas d'effet comique, c'est que toujours ces physiques sont révélateurs de désir. Et notamment pour un personnage principal, généralement, lui, plus svelte, plus correspondant à des canons de mode, j'ai presque envie de dire. Et Félix Kizil peut y ressembler. Et puis, il y a toujours un individu observateur. Alors moi, j'avais pas noté le CGI sur le sexe, hein, j'avoue, je m'étais dit juste il est membré, quoi. Et qui donc va se rapprocher du personnage principal, et qui va finalement mettre à jour un peu ses mensonges face aux autorités policières. Le parallèle que je ferais là, donc, c'est pour évoquer évidemment le personnage du curé, mais je ferai un parallèle avec le personnage de Henri, qui est interprété par Patrick Dhassoum-Sao dans L'Inconnu du Lac, pardon, qui lui aussi finalement perçait à jour le personnage principal. Et je trouve que ces personnages, à chaque fois, sont des personnages exemplaires dans l'univers de Guiraudy, dans l'univers de désir de Guiraudy, et de désir souvent, contentés. Mais ce sont des personnages qui se sacrifient. Alors, soit désespérément, parce que dans L'Inconnu du Lac, Henri finit par mourir, par être tué par l'assassin qui rôde autour de Snack, ou joyeusement, comme ici, mais que dans chacun des sacrifices, finalement, il y a quelque chose, il y a un achoppement, c'est que ils devront, par contre, rester et se résoudre au caractère définitivement platonique de leur amour pour le personnage principal. Et je trouve que c'est en ça que peut-être le personnage du curé aussi est intéressant. Et que donc, dans un film comme un film de Guiraudy, le désir exprime aussi sa platonicité. Voilà, je finirai là-dessus.
Miséricorde, et c'est donc d'ores et déjà au cinéma. Sans transition, Sauvage de Claude Barrás. Claude Barrás, cinéaste d'animation en activité depuis le milieu des années 90 et qui avait signé en 2016 un premier long métrage, Ma vie de courgette, un film coécrit avec Céline Sciamma, autrice, faut-il le rappeler, de Tomboy et Portrait de la jeune fille en feu, entre autres. Présenté à la quinzaine des cinéastes, Ma vie de courgette avait ensuite raflé le cristal du long métrage ainsi que le prix du public au Festival du film d'animation d'Annecy. Et, excusez du peu, les Césars du meilleur film d'animation et de la meilleure adaptation, reconnaissance validée en salle, puisque le film avait rassemblé autour de 650 000 spectateurs. Comment donner suite à un tel succès? Barrás s'y emploie donc avec Sauvage, réalisé cette fois encore en animation en volume. De quoi est-il question? Bornéo. En bordure de la forêt, Caria recueille un bébé orang-outan orphelin. Moutang, le père de Caria, travaille pour une plantation de palmiers à huile. Caria baptise l'animal Oshi. Un jour, le grand-père de Caria confie son petit-fils Selei à Moutang afin de le protéger du conflit qui oppose les nomades aux compagnies forestières. Je m'en tiens là, mais libre à vous, bien sûr, de nous en dévoiler davantage. Jeff Marcadet, le cousin de Nicolas, car au fiche du cinéma, nous sommes tous une grande famille, qui a vu le film à Cannes, y salue, je cite, « l'aspect brut de l'apparence des personnages répondant à la volonté de ne pas gommer leur matérialité plastique et d'éviter de tendre vers une morphologie réaliste ». Et il voit surtout un film militant en colère, dénonçant avec véhémence le péril écologique, mais en tenue de combat, loin de tout prêche lénifiant. Jeff a été sensible également, et je le reconnais bien ici, à la présence dans la bande-son de morceaux du regretté Alan Vega et de l'excellente Shannon Wright, que j'avais vu en concert il y a une bonne vingtaine d'années dans une toute petite salle de Gambetta. C'est une anecdote sans intérêt, mais j'aime vous raconter ma vie. Au casting, on retrouve quelques voix connues, celles des omniprésents, et je ne m'en plains pas, Laetitia Doche et Benoît Poulvord, mais aussi celles de Pierre-Isaïe Duc, de l'excellent Michel Vuller, et de Gaël Faye, toujours en lice si je ne m'abuse, pour le Goncourt, qui devrait être dévoilé ces prochains jours. Sauvage de Claude Barrás, d'ores et déjà en salle. Qui veut nous en dire un mot?
Mais là, Francis, c'est toi le spécialiste, là.
Allez.
Spécialiste point Anatole. Anatole. Que dire du film de Claude Barrès? Alors, je vais commencer par les petites réserves, parce que ça fait toujours bien.
Alors, ça nous pose un critique, oui.
Ouais, ça pose un
On se dit, le mec, il est sérieux.
Ouais, et puis il a réfléchi, y compris sur le cinéma d'animation, quoi. On n'est pas juste dans la complaisance.
Si tu peux citer deux, trois termes un peu techniques, ça va faire la blague.
On va voir. Mais pour l'instant, non, ça ne va pas le faire, parce que, en fait. Je vais commencer par. Tu parlais d'elle, donc par Laetitia Doche. Et par, évidemment, ce qu'on connaît chez Laetitia Doche souvent, c'est une certaine excentricité de jeu. Et je trouve que c'est un jeu, finalement, qui est peut-être un choix de Claude Barrès ou un choix conjoint, qui est un peu redondant par rapport au personnage qu'elle interprète, qui est le personnage de Jeanne. Donc, je décris Jeanne, c'est une scientifique qui a tout quitté pour vivre avec la population indigène. Et je trouve que, finalement, ça renforce cette excentricité que le personnage finit par en devenir un petit peu caricatural. Et quand j'ai vu le film à Annecy, je me suis dit... soyons fous, hein, je me suis dit, tiens, si j'avais fait le film, quel prétentieux, je me dis que peut-être il aurait été intéressant d'aller dans une direction d'une comédienne, je mets des guillemets au mot, plus sérieuse, avec un timbre peut-être plus posé. Sur le coup, je me suis dit, une Céline Salette, par exemple, qui pouvait amener un contrepoint au personnage lui-même. Et c'est une des réserves que j'ai sur le film. Après, la deuxième, c'est pas complètement une réserve, c'est un principe du cinéma... d'animation familiale, donc c'est le méchant un petit peu caricatural. Donc ici, on a effectivement, c'est un contremaître véreux d'une multinationale qui déforeste la forêt pour en extraire l'huile de palme et qui réduit à néant, à peau de chagrin en tout cas, l'habitat naturel de l'orang-outan. Et je me dis, là, je le trouve, je sais qu'on a dit qu'il était caricatural et je le trouve moins caricatural, par exemple, que dans un film comme Migration de Benjamin Renner, qui est donc sorti l'année dernière, en décembre, où là, on est face à un cuisinier, viandard qui veut transformer en magret de canard la famille de Colvert qu'il rencontre au cours de sa migration. Et je me suis aussi posé la question en me disant, mais on va trouver, suivant sa propre conviction, son propre comportement nutritionnel, on trouvera l'un ou l'autre plus ou moins évidemment caricatural, puisque tous les deux, finalement, sont des figures de l'impact alimentaire dans le désastre écologique. Voilà, ça c'était un petit peu pour évoquer quelques réserves, et à contrario, pour évoquer, mais toujours sur la forme, ce qui me paraît, moi, être une force du cinéma, de la proposition de Claude Barrès dans les films jeunes publics, c'est que jamais dans ces films, et c'était déjà le cas dans Ma vie de courgette, on ne cède aux tentations narratives du genre. Alors, je les cite, hein, c'est La course-poursuite qui est là pour, évidemment, faire rire les enfants, hein, et parfois qui... ne fonctionne pas très bien, je ne citerai pas de film, on en a déjà parlé à l'antenne à plusieurs reprises. Des personnages secondaires gaguesques, ici on n'a pas vraiment ça. Et puis alors, le pire dans ces personnages secondaires gaguesques, ce sont les animaux. Hein, très souvent, qui vont être les personnages qui font des blagues. Et là, d'un seul coup, on voit apparaître deux petits animaux qui sont avec la tribu indigène. Et non, ils ont des comportements de petits animaux qui vivent dans la jungle. Et jamais, ils sont prétexte à blagues. Et puis, alors, et ça, je l'en remercie, quel que soit ce qu'on pense du choix, tu ne l'as pas cité quand même, la chanson emblématique du film, c'est une chanson de Daniel Balavoine. Quel que soit ce qu'on pense de cette chanson...
Je vous avoue que je suis plus Alain Vega que Daniel Balavoine.
Mais ça, moi, j'étais plus Sophie Hunger dans, effectivement, Ma vie de courgette que Daniel Balavoine. Même si j'ai aimé Daniel Balavoine, je ne vais pas dire le contraire, que ce choix-là. Mais... En tout cas, une des propositions importantes dans le cinéma de Claude Barrès et le cinéma à destination du jeune public, c'est d'éviter le tapis musical, hein, qui vient supporter toute émotion. Et donc, je passe au fond en me disant que quand même, il y a une chose qui, à mon sens...
Jusqu'ici, tu nous as dit tout ce que le film n'était pas et qu'il gagnait à ne pas être. Mais alors, qu'est-il ?
Mais qu'est-ce qu'il est, justement ? Et pour moi, c'est plus ce fond, c'est que je trouve que c'est un film... un nouveau long métrage de Claude Barrès qui vient inscrire vraiment, pour moi, un profil d'auteur avec les obsessions qui sont les siennes. Et moi, ce qui est pour moi au cœur de chacun de ces films, c'est que ce sont souvent, évidemment, des récits à hauteur d'enfants, mais d'enfants délaissés. Et d'enfants délaissés pour une absence qui est réelle ou ressentie de la mère. Dans Ma vie de courgette, c'est Courgette qui, au début... malencontreusement, finalement, tue sa mère, ce qui dit comme ça peut paraître bizarre, c'est pas Bambi, quoi. Mais et donc ensuite qui se retrouvent dans un centre pour enfants orphelins ou placés là par leurs parents. Et donc ce sont des enfants délaissés et qui là ont un manque réel. Mais j'ai envie de remonter moi jusqu'à un court-métrage, parlons un peu de court-métrage, de 2005 qui s'appelait Banquise. Et qu'il avait co-réalisé avec Cédric Louis. Et là, allez, je fais un point technique. Ce n'était pas de l'animation en volume, c'était du dessin. Et Banquise, c'est tout simplement l'histoire d'une petite fille solitaire qui est renvoyée sans cesse à son obésité, qui permettra de faire un lien avec le film de Guiraudy, par des discours radiophoniques et par la moquerie des minces, y compris de sa mère, justement, qu'elle effraie. Et qui trouve refuge dans une vie imaginaire, d'où le titre, avec des amis pingouins. Et qui finira dans une chambre froide de morgue. C'est quand même un film sur un suicide de petite fille. Il faut le signaler. Et je trouve que face à ça, Claude Barrès ose y aller, ne ménage pas son public, sans pour autant chercher gratuitement à l'impressionner, mais toujours à lui dire, bah, voilà aussi la réalité de l'enfance, quelle elle est. Et j'ai envie de dire, pour conclure, bah, que c'est aussi un film qui ose croire que David peut vaincre Goliath, que c'est un film qui, selon son propre degré d'optimisme et pessimisme, on le jugera naïf ou au contraire humaniste. Et suivant son questionnement par rapport à la modernité, dans ses apports, dans ses dérives, on pourra juger manichéen, on en reviendra à la caricature du personnage de méchant, ou au contraire utopiste avec l'histoire d'une révolution, avec l'espoir, pardon, d'une révolution heureuse.
Alors, qui d'autre a vu Sauvage ici autour de cette table ? Oui. Gaël ?
T'as pas vu, Florent ? Oh, salut.
Bravo. Alors, le principe dans cette émission n'est pas le principe dans cette émission n'est bien évidemment pas que tout le monde ait vu les films.
Non, mais bien sûr.
Bah, évidemment, non. Deux d'entre vous au moins puissent en parler.
Oui, tout à fait, Thomas. Alors, je n'avais pas vu Ma vie de courgette. J'ai très envie de le voir, mais je n'avais pas vu Ma vie de courgette. Et donc, je ne connais pas du tout le cinéma de Claude Barrès. Je ne connais pas, tu vois, le court-métrage dont tu parlais. Bon, déjà, il y a un truc qui est absolument saisissant. C'est la forme. C'est-à-dire qu'il y a... je ne parle même pas les lumières, la direction artistique, les couleurs, etc. Il y a quelque chose, c'est très, très, très beau. Enfin, pardon de la banalité, mais c'est très, très beau. Il y a vraiment... vraiment, il y a un travail de lumière qui est remarquable. Je veux dire, à la limite, film d'animation ou pas, il y a vraiment un raffinement qui est vraiment impressionnant. Et... alors là aussi, vraiment, excusez-moi, je veux dire des banalités de béotien, mais c'est miraculeux quand même. C'est, vous rendez compte, une espèce de pâte à modeler comme ça, qui prend vie, mais c'est pas seulement que ça bouge, les gars, c'est vivant. C'est-à-dire qu'il y a une émotion dans le moindre, les paupières, dans le petit sourire. Je comprends même pas comment c'est possible d'arriver à ce point de finesse, de subtilité, d'humanité. Avec des petits objets comme ça, je trouve ça, il y a un côté sidérant. Enfin, rien que ça, tu ouvres des quand t'es pas habitué, quand t'es pas un connaisseur, tu vois du cinéma d'animation comme moi, tu écarquilles les yeux, c'est fabuleux. Il y a quelque chose de cinéma pur. Alors par ailleurs, mais il se fout de moi, le Francis. Bah oui, tout le monde ne connaît pas.
Ah non, pas du tout. Parler de cinéma pur. Il y a plein de gens en animation qui disent, mais le cinéma pur, c'est le cinéma d'animation. Donc,
non, mais il y a quelque chose, si tu veux, du zootrope, si tu veux, c'est une image après l'autre. Enfin, vraiment,
tout cinéma n'est-il pas fondamentalement cinéma d'animation?
Absolument, absolument. Mais là, c'est très dense, cette idée, tu vois. Parce que vraiment. Enfin, faut voir les visages, comment les infimes vibrations sur le visage. Bon, rien que ça, si tu veux, c'est y a un côté, tu sais, vraiment, moi j'étais un peu bouche bée. Alors, sinon, il y a une histoire. Moi, ce que j'apprécie, je souscris à tout ce qu'a dit Francis, hein, par ailleurs, sur le film, tout à fait d'accord. Je trouve que l'histoire, elle est limpide, et dans le bon sens du terme. Limpide, ça veut dire que c'est simpliste, que c'est neuneux, pas du tout. C'est-à-dire qu'on évite les sous-intrigues, qu'on n'en peut plus, les trucs pour faire comique, poète-poète, je suis rien contre la comédie, hein, si tu veux, mais quand c'est pas le sujet, c'est vrai que ça aurait alourdi plutôt qu'autre chose. On arrive à suivre, un enfant de 8 ans, de 7 ans, peut suivre l'histoire sans se perdre dans des trucs pas possibles. Donc voilà, moi j'apprécie que pour un sujet comme ça, l'histoire soit limpide, sans être mièvre, sans être trop simpliste non plus. Certes, le personnage du méchant est caricatural, mais enfin, j'aime à croire que dans la vie, ils sont aussi assez caricaturaux, tu vois, les gens qu'il incarne, si tu veux. D'ailleurs, on voit bien que c'est pas les ouvriers qui sont caricaturaux, les ouvriers qui sont d'ailleurs aussi d'origine autochtone pour certains, mais c'est vraiment le boss, quoi. Le boss qui est un sale type. Mais voilà, je veux dire, est-ce que c'est vraiment une caricature? Je suis pas sûr. Le personnage de Laetitia Doche, alors je suis assez d'accord avec ce que tu dis, Francis. Je trouve le personnage un peu too much, un peu, ouais, les libéraux, ils veulent rien qu'un nanan. Mais je trouve que c'est déjà dans les dialogues. C'est-à-dire que je trouve que c'est pas seulement dans le côté un peu exubérant de Laetitia Doche. Je trouve que le dialogue est un peu forcé. Dans le côté, l'universitaire blanche, avec des dreadlocks, qui vit à l'autochtone, qui mange des graines, qui a sûrement des toilettes sèches, si tu veux, qui est contre le grand capital. Il y a un côté un peu over the top, si tu veux, finalement, elle est aussi caricaturale. Bon, c'est un peu méchant ce que je dis, mais enfin, je trouve que dans le dialogue, ça aurait pu être un peu plus léger. Il y a quelque chose. Il y a des scènes très très fortes. Il y a une scène, moi, qui m'a vraiment beaucoup touché, et je suis vraiment content qu'il y ait des centaines de milliers d'enfants qui voient ça. C'est que le petit cousin autochtone de l'héroïne qui, elle, vit dans un milieu, si ce n'est urbain, en tout cas, qui ressemble un petit peu plus au nôtre, hein, avec donc son père qui travaille dans un machin d'huile de palme, là. Mais son petit cousin, lui, il est autochtone, il vit vraiment dans la forêt et tout. Et à un moment donné, pour des raisons que vous verrez en voyant le film, bon, bah, ils doivent s'occuper du petit cousin, et donc elle emmène le petit cousin à l'école. Et alors là, il a son petit truc d'écolier, il a ses petites chaussures et tout. Et alors tout le monde se fout de lui parce qu'il est complètement malhabile, il est pas dans son élément. Et elle est prise entre deux trucs. C'est-à-dire que soit elle est avec lui, mais alors elle se prend le ridicule sur elle aussi, soit elle le dénigre, et c'est ce qu'elle fait. Elle se met du côté des cons, des bourreaux, si tu veux, parce qu'elle assume pas. Elle assume pas. Il faut dire, il faut voir. Je répète pas, mais il faut voir les trucs qu'il lui dit. C'est là où Claude Barras aussi n'est pas. Je vois ce que tu veux dire. Dans le côté, quand il y va, les insultes que se prend le petit gamin quand il est, enfin, c'est d'un racisme mais abominable. Abominable. Et j'en termine juste avec une autre scène, quand tu as une femme qui allait à la fois un petit bébé humain et un petit bébé orang-outan, il y a un truc, il y a un truc d'extrêmement puissant dans cette image. Enfin voilà, c'est un film assez magnifique.
Merci à tous les deux, merci à tous les trois. Florent, tu reprendras la parole pour le film qui suivra, mais en attendant, je propose que nous fassions une première pause musicale. Thank you.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, 89.4. Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Une fois n'est pas coutume dans cette émission, mais j'ai eu une absence qui m'a fait manquer notre rendez-vous de septembre. Évoquons après Coco Pelli, en ouverture d'antenne, un deuxième album du mois, en l'occurrence le nouveau disque du Stine Rasmussen Trio, Red Bossa. Ainsi, si Stine Rasmussen, pianiste de son état, est danois, la musique qu'il affectionne est brésilienne et inclinerait à un merveilleux état d'âme, le bonheur d'être triste. De cette bossa nova, donc, le jazzman nordique a fait le choix d'en être le chantre dans son pays natal. Alors, après un tout récent enregistrement en 2023, Milton Pazvenka, consacré au répertoire tropicaliste de Milton Nascimento, Stine Rasmussen se concentre cette fois-ci sur une tracklist de compositions originales, entièrement dédiée à celle qu'à l'origine ses détracteurs moquaient, entre autres, sous le terme de « viola o gago », à traduire par « guitare beg », parce que le rythme d'accompagnement de la guitare était décalé par rapport à la mélodie chantée. Accompagné à la contrebasse par Gaspar Watzold et à la batterie par Celso de Almeida, ce dernier, notons-le, n'hésite pas à l'occasion d'un titre « Bossa para Joyce » à proposer une rythmique de caisse claire qui sonne comme une partie de pandeiro, la version brésilienne du tambour basque. Stine Rasmussen arpente ici aussi bien la version groovy de la bossa nova, notamment avec ce Red Bossa diffusé en prélude de chronique, que sa version plus épurée, intime et cool, avec un piano solo intitulé « Silence » et qui viendra clôturer tout à l'heure notre rendez-vous d'octobre. Alors gageons maintenant qu'après avoir su s'illustrer new-yorkaise, tokyoïte ou parisienne, la bossa nova ne manquera pas à l'écoute du disque du Stine Rasmussen Trio, de se distinguer copenhagoise.
Merci Francis, et nous reprenons donc le cours de notre table ronde des actualités en salle avec un gros morceau à présent, une palme d'or en l'occurrence, Anora de Sean Baker, dont, je vous le signale, les premiers longs-métrages jusqu'alors inédits en France sont à découvrir par ailleurs ces jours-ci. Anora, stripteaseuse dans un club de Brooklyn, sait prendre un jeune héritier d'un richissime homme d'affaires russe qui la demande en mariage, mais le mariage n'est pas du goût de sa famille, qui, sitôt prévenu, envoie sa garde rapprochée pour le faire annuler fissa. Le jeune époux en fuite, il convient de le retrouver, et Anora, contre son gré, se retrouve embarquée dans l'affaire. Une nuit à New York avec un crochet, certes par Las Vegas et en jet privé, s'il vous plaît. C'est le cœur du récit d'Anora, qui en cela pourra évoquer entre autres références le After Hours de Martin Scorsese ou encore le Good Time des frères Safdie, le New York des clubs et établissements interlopes de Brooklyn, plus précisément, où le film puise la matière d'un conte cruel matiné de comédie, mettant une fois encore à l'honneur et cette fois au contact des ultra-riches, les oubliés et tricards de l'Amérique. Au casting, Mark Edelstein, Karen Karagoulian, Yuri Borisov, vu notamment dans le compartiment numéro 6 de Yoko Osmanen, et puis dans le rôle-titre, l'épatante Mikey Madison, révélée par la série Better Things, aperçue dans le Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino, ainsi que dans les 5e et 6e volets de la saga Scream. Gaëlle, nous avons découvert le film ensemble il y a de cela quelques jours.
Mais c'est vrai, Thomas.
Ben voilà, c'est pour... Oui.
Bah écoute,
c'est pour lancer la discussion et rappeler que j'aime à te croiser en projection, en réunion,
oui,
dans tout
si
autre
souvent,
lieu.
C'est pas si souvent, Thomas, c'est pas si souvent.
Voilà.
Pas assez souvent, à mon goût. Alors, tu citais les frères Safdie et Scorsese. Moi, ça m'a fait un peu penser à Pretty Woman, quand même. Mais Pretty Woman, si tu veux, en plus réaliste. Si tu veux. Pretty Woman, mais comment ça se passe vraiment après la fin? C'est-à-dire que l'argument ressemble un peu, si tu veux. C'est un millionnaire ou milliardaire, une travailleuse du sexe, pour prendre un terme un peu générique. Et,
alors, qu'il ne faut pas, dans le film, traiter de prostituée.
Non.
Ça, on voit bien que ça ne passe pas.
Voilà. Après, il y a des susceptibilités, effectivement, des questions catégorielles, des questions. Bon. Mais travailleuse du sexe, voilà. C'est-à-dire que c'est les stripteaseuses avec bon un certain nombre de compétences dont on ne voilà. Il faut voir le film. Bon. Donc une espèce de Pretty Woman, mais tout bon voilà qui bascule à mi-film dans quelque chose de beaucoup plus sombre, pas totalement réaliste. Faut pas non plus, mais quand même quelque chose de beaucoup plus dark et avec ce côté effectivement frères Safdie, c'était comment ça s'appelait le film avec Robert Pattinson l'un des frères Safdie.
Good Time.
Bah oui, c'est
le film avait été cité.
Bon, ça suffit. C'est ce, mais non, mais comme j'avais plus en tête, voilà, c'est celui-là, voilà, effectivement le côté gentiment sordide quand même hein, de la faune new-yorkaise, tout ça. Donc c'est un film coupé en deux, presque coupé en trois selon moi, mais enfin en gros comme ça coupé en deux. Et Il y aurait tous les ingrédients pour que ça soit très déprimant, finalement. C'est-à-dire que il y a cette femme extraordinaire, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de beauté extraterrestre. Enfin, tu dis d'où elle sort, avec encore une fois des compétences chorégraphiques et autres qui sont. Il y a une espèce de puissance comme ça, de puissance physique, érotique, etc. Et tout d'un coup, on se dit bon bah tout d'un coup quand on va se réveiller, quand il y aura la gueule de bois, le mariage à Vegas, tout ça, là, ça va capoter, ça va être... bon. Et en plus que c'est des vilains Ruskov, là, de l'oligarque et tout ça, là, ça va pas le faire. Bon. Et ce que je trouve vraiment réussi dans le film, c'est que pas du tout. C'est-à-dire, sans trop édulcorer la chute fatale après ce moment, comme ça, cette bulle de rêve, l'auteur nous montre une femme qui se défend. Elle se défend. Ça ne veut pas dire qu'elle va être plus forte que l'argent, qu'elle va être plus forte que l'homme d'affaires. Mais elle y va. Même si c'est... Quand bien même ce serait foutu, elle se défend, mais bec et ongle. C'est-à-dire qu'elle tabasse quand même les deux gros bras.
Ah oui, c'est une scène, je t'en avais parlé, oui. Marie-Pauline Bollaré, qui était sur ses ondes le mois dernier, avait été assez choquée à Cannes de la réaction d'une partie du public qui riait copieusement au cours d'une scène où Anora est notamment empêchée, entravée, ligotée. Et elle était très gênée par le rire des spectateurs, des spectatrices. Mais alors effectivement, dans cette scène-là, pour donner le change, elle se défend. Voilà. Copieusement, elle fait preuve d'un abattage certes pas comique, mais qui produit une forme de comique. Alors, moi je sais pas, je suis un peu...
Ouais, j'entends.
C'est-à-dire je suis un peu entre les deux, là, moi,
ce
moi,
qui sur se cette passe question-là. De fait, c'est-à-dire qu'une nana qui a rien demandé à personne, elle se fait frapper, ligoter, peut-être potentiellement violée, en tout cas, il y aurait éventuellement une possibilité, donc c'est pas drôle, on est bien d'accord. Simplement là, sa réaction est tellement surprenante, elle est tellement énergique, elle est tellement pas sidérée, hein, si tu veux. Elle fout des pains et tout ça, elle envoie valser deux gros mecs comme ça, et il y a des effets de mise en scène qui sont clairement burlesques. Hein. C'est un gros mec comme ça, très fort, qui tout d'un coup, oh, on essaye du nez, machin, ça. Il y a un effet burlesque qui fatalement produit à la fois la jubilation de voir cette nana tenir tête à ces gros mecs et la mise en scène burlesque, bah, ça peut déclencher le rire. Hein. Je peux comprendre si tu veux la réaction que
mais sans rien dire pour autant de la violence
non pas
qui
du
lui
tout
est infligée voilà
pas du tout c'est que c'est aussi
c'est là que je voulais
c'est,
en venir
c'est ouais. aussi la gravité de la situation qui tout ça crée une tension qui fait que quand elle envoie valser les il y a une espèce de libération comique mais après bon je peux entendre que effectivement la scène en soi dans ce qui se passe réellement n'est pas drôle bon mais elle se défend et elle hurle et alors ça peut être irritant des fois des hurlements dans les films mais là on est avec elle mais vas-y crie tant que tu peux, au viol, elle crie, mais on se dit, mais c'est tellement puissant, c'est l'impression qu'elle va les faire fuir presque tellement elle crie fort. Donc ça, c'est beau. J'étais très touché par ça. Cette espèce de cri vital contre toutes les forces, et peu importe si ça marche, si ça marche pas. Mais j'ai trouvé ça très beau. L'actrice est merveilleusement bien filmée. Alors là, vraiment, il y a une histoire d'amour entre entre l'œil du réalisateur et cette nana. Il y a des à la fois elle est magnifiée je dirais en pied, c'est-à-dire tu la vois vraiment quand elle danse ou quand elle se déplace et tout, et tu vois des gros plans, tu vois ses yeux, tu vois je sais pas, il y a une grande gamme d'émotions qui traversent son visage. Je trouve ça vraiment c'est très touchant la façon dont il la regarde. Alors après juste un petit bémol mais voilà que c'est je dis pas que j'ai raison, je trouve que le dernier tiers s'étire de façon un peu bizarre. Je comprends pas pourquoi la fin dure aussi longtemps, avec certains dialogues un peu creux, j'ai pas très bien compris. Et j'avoue que le dernier plan, je trouve, à titre personnel, voilà,
peut-être vraiment un petit peu
beaucoup trop démonstratif. Voilà, ouais. Beaucoup trop démonstratif et explicatif. Voilà, ce serait le bémol que je dirais.
Florent, tu avais vu le film à Cannes, toi,
ouais,
si je ne m'abuse.
Oui, moi, il est un peu moins frais dans mon esprit que vous, mais disons que moi, je vais être un peu sur la même position que pour le film précédent, enfin, que pour le film de Guiraudy. C'est-à-dire que j'aborde le film avec une détestation assez forte du long métrage précédent de Sean Baker, qui était Red Rocket, qui était aussi en compétition à Cannes en 2021.
Alors pour lequel je n'ai pas beaucoup de tendresse par ailleurs, moi aussi.
Et qui érotisait une gamine de 17 ans et qui faisait quelque chose d'assez dégueulasse, je trouve, en termes de regard sur un personnage féminin et sur tout ce que ça pouvait raconter par ailleurs. Là, effectivement, j'adhère vraiment à ce que tu dis, Gaël, à savoir que il y a quand même quelque chose de très important dans Anora, c'est c'est qui on regarde. Et là, on regarde un personnage féminin qui est une TDS, qui est une travailleuse du sexe, et qui et c'est pas une représentation qui est quand même extrêmement fréquente dans le cinéma américain, même indépendant. Donc, ce qu'on représente, ce qu'on regarde, c'est important. Et là, je loue vraiment cette espèce de virage dans son cinéma, qui était plutôt masculin jusque-là, même si il faudrait apporter quelques bémols, parce que Florida Project et Tangerine, c'était quand même un petit peu plus nuancé que ça. Mais vraiment, Red Rocket était quelque chose qui était abominable sur ça. Là, on regarde un personnage de femme et on le regarde avec une certaine tendresse et avec un esprit de révolte par rapport à ce qui lui arrive. Et cette révolte, comme tu l'as très bien dit, passe aussi par les cris, par la sueur et par une forme de constat sur moi, il y a une scène que je trouve vraiment sublime dans le film. C'est quand ils sont justement sur le tarmac avec ce jet privé, et que dans un film justement comme Pretty Woman, dans un film très hollywoodien, on aurait une bravade du personnage principal qui dirait je vous emmerde, je me casse puisque c'est comme ça, je vais vous pourrir la vie. Mais la réalité, qui est un petit peu décrite dans le film, c'est que oui, mais en fait, elle se fait rabaisser par le personnage de la mère de son époux, en lui rappelant sa condition sociale.
Parce que le rapport de classe s'impose à elle.
Voilà, il y a ce rapport de classe qui lui revient en pleine tête. Et on a ce moment, encore une fois, un moment de silence, il faut croire que j'aime beaucoup ça, où le personnage réfléchit et se rend compte, en fait, qu'elle ne peut pas faire de bravade, qu'elle est bien rattrapée par sa vie et qu'il va bien falloir continuer de vivre avec tout ça. Et ça, c'est vraiment très réussi. C'est tout en étant une fiction, on te rappelle un petit peu qu'elle est une transfuge de classe et que, pour employer un mot à la mode, et qu'elle n'a rien à faire dans cette histoire-là. Et ça, c'est vraiment très réussi. Et en ça, le film est original et je comprends qu'il ait pu taper dans l'œil d'un certain jury canois. Là où moi, franchement, c'est pas un film que j'ai envie d'égratigner, c'est pas un film dont j'ai envie de dire du mal, mais malgré tout, et sans vouloir faire du 100% canois et de toujours parler de ce festival-là, c'est un film donc qui a eu la Palme d'Or dans un jury qui était présidé par Greta Gerwig. Qui est Greta Gerwig? C'est une réalisatrice américaine qui vient du cinéma indépendant. Quand on voit ça, on se dit quand même qu'il y a une forme de consécration d'une zone de sécurité, c'est-à-dire je sais ce que je connais, je sais ce que je fais, et je récompense ça. C'est une limitation en termes de regard qui me dérange un peu, et d'autant plus que le film a ce type de limite dans sa forme. Il est dans la forme du cinéma indépendant, il est bien propre dans sa façon de raconter le film, il est très linéaire, et ça me fait penser, d'aucuns pourraient considérer que ça n'a rien à voir, moi je trouve qu'il y a au contraire des points de similitude, avec un film comme Liliane d'Andrea Sorvat, qui était à la quinzaine réalisateur il y a quelques années, et qui était beaucoup plus libre dans sa forme, et qui racontait l'histoire justement d'une immigrante, parce que Anora, sans raconter toute l'histoire, c'est quelqu'un qui est deuxième génération, elle-même d'origine russe, je crois.
Elle est présentée d'ailleurs au fils de l'oligarque russe, précisément parce qu'elle parle russe.
Voilà, et il y a tout ce rapport,
parce qu'elle le comprend en tout cas,
de moquerie d'ailleurs sur le fait qu'elle parlerait pas assez bien russe. Enfin, il y a quelque chose qui est pas inintéressant d'ailleurs dans ce point-là, dans le fait que les véritables Russes se moquent de l'immigrante. Et on y avait, alors Liliane, c'était un personnage qui était, je crois, d'origine ukrainienne et qui se voyait proposer son rêve américain se dissolver parce qu'on lui proposait de faire de la pornographie en fait, et elle entamait une itinérance à travers les États-Unis pour, selon elle, rentrer sur le continent russe, hein, quasiment, par le détroit de Bering, enfin par une espèce d'odyssée incroyable qui vraiment était... Alors je sais que le film n'est pas forcément quelque chose de consensuel, mais qui apportait quelque chose formellement. Donc moi, voilà, j'ai quelques limites quand même en termes de regard vis-à-vis de ce film, vis-à-vis de sa forme, et donc je serais un petit peu plus mesuré dessus.
Anora de Schoenbecker, et c'est en salle, je ne sais plus si je vous l'avais dit, à compter de mercredi prochain, sans transition, 3 km jusqu'à la fin du monde. C'est le troisième long-métrage du cinéaste roumain Emmanuel Parvu, le premier à sortir en France. L'argument, en quelques mots, un matin, Dragoï, pêcheur sur une petite île du delta du Danube, nous sommes en Roumanie, découvre son fils Adi, 17 ans. Gravement tuméfié, il soupçonne son créancier Zentov d'être en cause, sa dette étant arrivée à échéance. Le chef de la police locale accepte d'enquêter, mais avec réticence. En effet, Zentov a des relations qui pourraient l'aider dans sa demande de retraite anticipée. Les fils de Zentov passent aux aveux, mais expliquent avoir agressé Adi car il l'avait vu embrasser un touriste. Je me cite moi-même, sinon qui le fera ? Chronique de l'homophobie ordinaire et recension sur le dos de sa victime d'un panel pas loin d'être exhaustif de ses formes possibles, de la commisération à l'agression physique en passant par différents degrés de coercition. 3 km jusqu'à la fin du monde est aussi le tableau d'une société non pas gangrénée par le patriarcat et les superstitions religieuses, mais fondée par eux. C'est encore le tableau d'une corruption généralisée, ponctuellement pointée par un humour à froid qui, plutôt que de venir saper la gravité des faits, en souligne le caractère quotidien. Fin de la citation. J'ai eu le plaisir de rencontrer Emmanuel Parvoux pour un entretien à découvrir dans les fiches du cinéma. Excellente revue au passage. L'occasion d'évoquer le territoire singulier où se déroule le récit, petit coin de paradis du delta du Danube, où vit à l'année une société constituée pour l'essentiel de pêcheurs, mais qu'il était venu attirer une foule de cinéphiles, car un festival s'y déroule, et de visiteurs du continent. L'occasion d'évoquer également la société roumaine, l'homophobie qui la gangrène, ce n'est pas la seule société concernée évidemment, et certaines de ses influences en termes de mise en scène, à commencer par Nuri Bilge Ceylan, l'ai-je bien prononcé Florent ?
C'est magnifique.
Et l'un de mes films chéris de ces 10 dernières années, j'ai nommé Le Poirier Sauvage, mais aussi Christy Pouillou, son compatriote, ou encore Le Despois de Lucia de Michel Franco, pour une citation explicite dans le film que je n'avais pas relevée, elle était pourtant limpide, vous me direz si vous l'aviez identifiée. Je me permets de l'évoquer car dans les cahiers du cinéma, Yael Sadat reproche à Parvoux de filmer, je cite, « pour prouver et édifier plus que pour interroger, cherchant une vérité qu'il connaît déjà, montrant ce qui d'emblée se voit ». C'est une chose qu'on peut reprocher au cinéma de Franco, un cinéaste pour lequel j'ai beaucoup moins de sympathie. Vous me direz si pour vous la comparaison fait sens. Pour moi, ce n'est pas vraiment le cas, mais enfin, c'est pour lancer la discussion un peu comme ça, grossièrement. Elle affiche Cyprian Chiouchdea, Bogdan Dumitrache, Laura Vassiliou, et dans le rôle d'un prêtre pour le moins flippant, une figure familière, Adrien Titiani, vu entre autres dans Baccalauréat de Christian Mungiu ou encore Illégitime d'Adrien Sitarou. Le film est d'ores et déjà en salle. Elle est Gaëlle.
Ouais, je pensais au prêtre, on préfère le prêtre de Guy Roddy.
Certes.
Hein, sans déconner.
Ah bah c'est pas le même registre.
Voilà. effectivement, alors c'est Ceylan, c'est vrai que j'aime bien dire Ceylan, parce que Ceylan, tu sais.
Mais dis comme tu l'entends.
Bon alors, Ceylan, Ceylan, on ne sait que choisir.
Pas sûr qu'il nous écoute de toute façon.
Le Poirier Sauvage.
Alors le film.
Alors effectivement, j'y ai pensé en voyant le film. Et j'ai un peu pensé aussi à Despois de Lucia de Franco, que moi j'aime beaucoup. Je parle du film, pas forcément de Franco en général, le dictateur non plus d'ailleurs. j'ai quelques bémols sur son parcours. Mais Despois de Lucia, j'aime beaucoup, beaucoup ce film. Et c'est vrai que on sent cette influence, c'est-à-dire dans des cadres très très composés, avec des travelling très très lents. Quand il y a un mouvement de caméra, attention, il est signifiant, il est jamais là au hasard.
Et puis là, c'est le plan final sur le bateau.
Je n'y avais pas du tout pensé,
mais effectivement, oui. C'est frappant. Oui. Il me l'a dit lui-même. J'ai appelé Michel et je lui ai dit j'ai fait le même plan que toi, comme ça, quand tu verras le film, tu penseras à moi.
Pour plus de détails, lisez l'entretien excellent dans les fiches du cinéma, très bonne revue, où effectivement, il parle de tout ça. Mais je n'avais pas du tout identifié le dernier plan. Par contre, là, j'étais à la rue là-dessus. Il y a un côté graphique avec des cadres dans les cadres. Il y a effectivement des longs travelling qui se terminent par un gros plan. Enfin, tout ça est extrêmement raffiné, pensé. Voilà. Bon. Donc, il y a quelque chose de très. J'allais dire efficace, oui, efficace. Et d'ailleurs, il y a quand même un devenir thriller dans le film qui ne va jamais au bout de ce truc-là, mais enfin quand même, on ne sait pas ce qui va se passer, ça commence à sentir le roussi de plus en plus pour le personnage.
C'est presque un film d'évasion.
Oui, oui, puisque comme... Alors là, pour le coup, je te cite complètement Thomas, quand tu parles effectivement de prison à ciel ouvert, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de... c'est très lumineux, coloré et tout, et en même temps, le personnage est totalement enfermé, et part effectivement d'une double prison, c'est-à-dire la prison de ce lieu, quoi, un peu insulaire comme ça, et la prison de la chambre où il va être tout à fait concrètement enfermé. Alors, c'est une société, alors effectivement, comme tu dis, qui n'est pas gangrénée par patriarcat ou je sais pas quoi, mais qui est fondée. Et effectivement, quand je voyais le film, je dis voilà, société où tu vois les hommes, voilà, les hommes, ils possèdent les choses. Alors, ils possèdent les terrains. Des fois, ils possèdent les hommes qu'il y a dans le terrain aussi, hein, c'est les créanciers. Ils possèdent les femmes, ils possèdent les enfants. Et alors, quand il y a...
Jusqu'à croire, comme le dit le père à un moment donné, que parce qu'on a un enfant, on a sur lui droit de vie et de mort.
Absolument. Mais c'est sa possession. C'est ça qu'on ressent vraiment dans le film. Que ça soit le père, que ça soit le créancier, que ça soit le flic, etc. Ils nous appartiennent. Ils font pas non plus ce qu'ils veulent. Ils vont pas se commencer à galocher des touristes dans notre dos. Qu'est-ce qu'on vont dire les gens? On va passer pour une bande de tarlouses. Nous, on est des vrais Roumains à l'ancienne et je sais pas quoi. Enfin, ils ne supportent pas qu'on sorte d'espèce de gang, cette espèce de filet qui leur regarde surtout. Et là, tout d'un coup, leur bienveillance, leur côté « Ah, j'aime mon fils », etc. Tout d'un coup, ça se craquelle. Alors, à la fois, c'est efficace, parce que c'est très fort, il y a un côté angoissant. Et effectivement, il y a des petits traits de comédie de temps en temps qui te font un peu sursauter et qui relèvent encore plus la gravité de la situation. Alors, voilà, là j'entre un peu dans un petit bémol parce que en même temps chacun a ses raisons.
Et
chacun.
Je passerai la parole à Florent voilà. dans la foulée.
Chacun pense bien faire et en même temps on a du mal à croire que ça soit autre chose que de l'égoïsme, de la bêtise, etc. Peut-être la mère pense vraiment bien faire pour son fils, je ne sais pas, mais j'ai un peu de mal. Ce qui fait que je trouve le film peut-être un peu trop exclusivement édifiant, comme disait la critique dans les cahiers. Peut-être c'est un peu trop tourné. Disons que tout sert un propos, tout sert un discours. C'est ça qui m'a un dérangé, c'est pas forcément le mot, mais... Et d'un autre côté, et j'en terminerai là, il y a quand même, rappelons que en France, 28 sénateurs ont voté contre l'interdiction des thérapies de conversion. Parmi ces sénateurs, il y avait notre actuel ministre de l'Intérieur,
Bruno Retailleau,
qu'on embrasse, que cette pratique cette pratique de torture est légale dans la majeure partie du monde. Donc finalement, ça va mieux en le disant. C'est quand même pas mal d'insister sur ce sujet, parce qu'on n'en est pas... on n'est pas sorti des ronces complètement là-dessus.
Florent.
Effectivement, on peut avoir quelques bémols sur le film. Moi, très honnêtement, je vais pas faire mon pisse-froid sur ce coup-là. J'avais beaucoup aimé le film quand je l'avais vu, et j'avoue que de la même façon que je trouvais ça, sur un aspect purement de sujet, de qu'est-ce qu'on regarde, j'avais trouvé ça vraiment super de prendre ce point de vue un petit peu insulaire, ce côté isola, et de regarder un petit peu l'homophobie dans les yeux, quoi. C'est quelque chose que quelqu'un comme Radu Yud fait très bien avec une forme, là pour la peine, qui peut-être à l'opposé total de ce que fait Parvu, qui a une forme de classicisme dans la mise en scène, avec quelque chose de plus facile en termes de point d'entrée. Mais ça prouve quand même, juste pour le citer, qu'il y a un dynamisme et une école incroyable en Roumanie, parce qu'on arrive encore à découvrir des noms. Pourtant, c'est quelqu'un qui a 45 ans et qui, même s'il a que 3 longs métrages, moi, je suis toujours fasciné par le côté. On va vous en sortir. Il y a toujours des nouveaux noms, des nouveaux talents qui sortent de l'école roumaine. Et je pense pas qu'on puisse en dire beaucoup autant sur beaucoup d'autres pays en Europe. J'étais fasciné dans le film par l'éloignement de la ville, en fait, par le côté. On parle de Bucarest, on parle du continent, mais comme si c'était à des centaines de kilomètres de là. On a l'impression qu'on est on est sur une autre planète presque. On est dans une réalité qui où la loi, tout ce qui régit un petit peu, qui donne un sentiment de continuité dans la vie n'existe pas. C'est on s'en arrange entre nous. Le policier passe par là et puis il arrange les choses sans qu'on fasse d'enquête. On enterre tout. Jusqu'au moment où justement la ville fait irruption dans le cadre bien ordonné de ce joyeux bordel, et vient rappeler que on fait peut-être pas ce qu'on veut, et peut-être que en clair on n'enterre pas les gens pour reprendre la figure de Guiraudy, juste parce qu'on veut se débarrasser d'eux, quoi. Parce que on a vraiment l'impression que ce personnage, moi je le trouve sublime, ce personnage de Cyprian Gyujdea. Encore un physique de taiseux, encore une fois on est dans le silence, hein, décidément. Et on est face à quelqu'un qui je trouve que la figure du film d'évasion est assez bonne, effectivement, parce que il y a plusieurs tentatives, il y a ce côté de repartir encore une fois et d'essayer d'échapper à cette réalité parallèle pour revenir un petit peu, parce que c'est quelqu'un qui fait ses études dans, justement dans un milieu plus urbain et qui, on le comprend bien, arrive à être lui-même et arrive à vivre sa vie comme il l'entend de jeune adulte, parce que je crois qu'il a tout 17 ans ou il arrive sur ses 18 ans, qui arrive véritablement à s'émanciper de ce milieu-là parce qu'il l'a quitté. Et là, d'un seul coup, il se fait rattraper par tout ça. Et je trouve que ce regard, ouais, sur la société roumaine, mais d'une manière plus générale sur ce qu'a rappelé Gaël, à savoir qu'on n'est pas encore débarrassé totalement d'une certaine forme de conservatisme, est assez brillante. Et au-delà de ce qu'a pu dire Yael dans les cahiers ou par ailleurs, même si effectivement il y a un côté édifiant, il y a un côté peut-être un petit peu trop linéaire et un peu... Le film fait 1h45, mais c'est vrai qu'on par moments on a le sentiment qu'il est beaucoup plus long et qu'il est un petit peu trop étiré. Mais au-delà de ça, moi j'ai quand même envie de saluer le geste et... Ouais, c'est quand même un très beau film que je recommande.
3 km jusqu'à la fin du monde de Emmanuel Parvou, c'est en salle depuis le 23 octobre. Et ne ferions-nous pas à présent une petite pause musicale avant de nous retrouver pour la dernière ligne droite de cette émission. On se retrouve donc dans quelques instants.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, 89.4. Longtemps, je me suis couché de bonheur et toujours nos petits échanges hors micro. Je désannonce qu'on vient d'écouter. Évidemment, c'est un deuxième extrait de l'EP de Coco Pelli, Family Affair. Le titre, c'est Mania. Et je vous rappelle que Coco Pelli sera en concert le 21 novembre prochain au 3 Baudets à Paris.
L'actualité des sorties en salle, la suite et la fin, avec les deux derniers films au programme de cette table ronde. The Substance, c'est le deuxième long-métrage de Coralie Farja, autrice de Revenge, en 2017 à Cannes, où il figurait en compétition officielle. The Substance a reçu le prix du scénario, celui que traditionnellement on remet à un film qui ne se distingue pas par son scénario. C'est une fois encore le cas ici, quoique par ailleurs l'on pense du film. Le sujet, en quelques mots, je vais m'efforcer d'être clair. Soyez attentifs, toutefois. Ancienne célébrité dont l'étoile a pâli, ce qui illustre d'ailleurs très littéralement une scène introductive plutôt bien sentie, m'a-t-il semblé. Elizabeth Sparkle, dont le nom en français pourrait se traduire par éclat ou scintillement, vous saisissez ? Et désormais, l'animatrice vedette, comme on disait dans les 80s, OK Boomer, d'une émission d'aérobic. Mais le jour de ses 50 ans, son producteur la renvoie pour se mettre en quête de chair fraîche. Elisabeth reçoit alors une drôle de proposition, celle d'une société lui offrant de tester la substance, un produit qu'il lui faudra s'injecter quotidiennement, et grâce auquel elle pourra devenir la meilleure version d'elle-même, comprenez, plus jeune et plus belle, lui promettons. Elisabeth cède à la tentation, mais il lui faut respecter un protocole très précis dans l'administration des doses, un protocole que je ne vous détaille pas ici, sans quoi les choses pourraient tourner au vinaigre. Trop à plus d'un titre, trop long, trop gore, trop bas du front, trop vulgaire et grotesque, le film de Coralie Farjat est aussi un petit brûlot marrant, planté droit dans ses bottes et sa mauvaise humeur, déclinant sans chichi une équation simplissime et cohérente, c'est ce que nous dit Nicolas Marcadet dans les fiches du cinéma, mon Dieu, mais ce garçon écrit sur tous les films. Le jury et certains festivaliers ont-ils été impressionnés par un film empruntant au Cinébabis, dont ils n'étaient pas familiers. Thierry Frémaux a-t-il voulu reproduire l'effet Titane, autre film de genre qui en 2021 avait remporté la Palme d'Or? Ce sont quelques-unes des questions que je vous pose et auxquelles, bien évidemment, vous n'êtes pas tenu de répondre, car il n'y a pas d'injonction sur Radio Libertaire. Au casting, Demi Moore, Margaret Qualley et dans le rôle d'un producteur abject et libidineux prénommé Harvey, tiens donc, Dennis Quaid, que j'avais, je dois l'avouer, un peu perdu de vue depuis quelques années, et ce sera en salle à compter du 3 novembre. Florent Gaël, vous avez vu The Substance. Allez, Florent.
Ouais, malheureusement. Et non, mais enfin, moi, je vais pas être très long sur le sujet. Moi, je suis complètement. Alors déjà, Revenge, c'était pas grand chose. On était dans quelque chose qui voulait rappeler le Rape and Revenge, un genre où elle inversait un petit peu le rapport de force, où on était plus collé sur le féminin et un petit peu moins sur les intentions masculines. Mais les belles intentions, ça ne fait pas tout, et le film était très inconsistant. Elle reprend un peu la même recette, sauf qu'elle passe là donc du pif à Cannes, par un effet qui pourrait être très enthousiasmant, de se dire qu'on s'ouvre un peu, comme l'a dit Thomas, on ouvre un petit peu la grande chapelle cannoise à quelque chose de différent. Le problème, c'est que...
Le registre du body horror, en l'occurrence.
Voilà, qui est ce fameux terme à la mode qui a été poussé très haut par Titane et qui, moi, me convainquait déjà très peu. Et ça pour faire court, j'ai l'impression que ça me fait un peu l'effet de l'anomalie d'Hervé Le Tellier qui avait eu le prix Goncourt il y a 2 ou 3 ans, à savoir qu'on s'encanaille à aller chercher du genre pour les gens qui ne savent pas ce que c'est. Et on va s'amuser, se faire des gorges chaudes sur quelque chose qui est, au final, très peu de choses. Demi Moore joue très bien son rôle. Il y a des choses qui peuvent être assez réussies sur la toute fin du film, avec des petits éléments comme ça un petit peu plus subtils, mais alors la subtilité, excusez-moi, elle est un petit peu évacuée du film à tout instant, et c'est terriblement long en plus. Terriblement éprouvant visuellement. Allez voir Street Trash, vous en apprendrez beaucoup plus sur ce que c'est que le cinéma gore que pendant 2h30 avec Coralie Farjat qui m'agace prodigieusement. Voilà, je te laisse la parole.
Alors c'est un cinéma qui renvoie, qu'on aime le terme ou non, à ce qu'on appelle communément depuis quelques années le body horror, mais qui cite aussi de façon très explicite le cinéma d'Hitchcock, Vertigo, Psychose, le cinéma de Kubrick, le cinéma de Cronenberg. Alors, comment est-ce que tu te positionnes sur le film, Gaël?
Alors, c'est un beau projet. C'est un beau sujet, hein, c'est-à-dire voilà une actrice vieillissante, on lui propose une cure de jouvence, voilà, bon, Hollywood, dévoreur de chair fraîche et tout ça, très bien, avec un argument un petit peu conte de la crypte, tu vois, c'est-à-dire, ah, elle va s'injecter un truc, et puis, c'est bon, ça a mal se mettre, hein, tu vois, un peu sur le modèle de Dorian Gray, tu vois, le portrait qui prend toutes les tares, qui vieillit, qui devient monstrueux, bon. Voilà, il y a beaucoup de références, effectivement.
Il faut préciser que le personnage de Demi Moore se dédouble.
Voilà,
c'est une jeune femme qui sort de son corps, lequel se voit dès lors réduit à une simple enveloppe corporelle.
C'est là où je suis un peu en désaccord avec ton pitch, la façon dont tu as résumé le film, parce que tu dis devenir une meilleure version d'elle-même. Non. Pour moi, non.
C'est ce qui lui est vendu, en tout cas. Alors, c'est ce qui lui est proposé. Quand je vois le film, c'est la mystérieuse corporation.
Vous vous injectez un truc et vous avez quelqu'un
d'autre. N'accrédite pas ces termes.
Vous avez quelqu'un d'autre qui sort de votre dos, qui est plus jeune que vous, qui est plus beau, qui est machin et qui va vivre qui va vivre pendant une semaine, et puis après c'est vous qui revivrez avec votre vieux corps machin pendant une semaine. Donc
je
pour
me
moi
c'était un petit peu compliqué à expliquer. Alors, j'ai préféré faire l'économie de ce résumé, mais je te remercie de le prendre en charge.
Alors tout d'abord, le fait, moi j'avais bien aimé Revenge. J'aime bien le fait que on va dire des choses, même si c'est pas très fin, etc. Mais dire des choses qui nous semblent importantes par le biais du genre, moi je très bien. Revenge, moi plutôt réussi. Donc là pourquoi pas. Mais là qu'est-ce qu'on j'ai du mal à adhérer à l'argument de base. Quel est l'intérêt pour le personnage? C'est-à-dire que elle s'injecte le truc et il y a une nana jeune qui va vivre à sa place. Mais elle ne ressent pas ce que ressent la nana. C'est une autre personne. Alors, le film n'arrête pas de nous dire « Oui, mais vous êtes une. » Non, c'est deux personnes, je suis désolé. Elles ne vivent pas, elles n'ont pas la même souvenir. Elles ne vivent pas la même chose. Donc, à un moment donné, je me dis « Mais quel est l'intérêt ?» Si c'est pour toi, tu vas être rajeuni. Et tu vas un coup tu vas être jeune, un coup tu vas être vieux, je peux voir l'intérêt. Là, de regarder quelqu'un vivre à ta place, je vois pas l'intérêt. Donc déjà, je trouve qu'il y a quelque chose dans l'argument qui, moi, pour moi, est bancal. Bon, alors, le choix de Demi Moore, super choix, parce que c'était vraiment une énorme star dans les années 90. Et puis, bon, on l'a moins vu par la suite. Et c'est vraiment la nana qui était, voilà, on imagine les pressions qu'elle a dû subir, direct ou indirect, sur son physique. Et t'imagines bien, quand t'as fait Ghost, tu peux pas prendre du bide, enfin, des trucs comme ça, quoi. Donc, on ressent ça, je trouve, bien dans le film. Je trouve que c'était un très très bon casting. Mais effectivement, l'argument me semble bancal. On sent jamais la connexion entre les deux. C'est censé être une extension d'elle-même à partir de son génome et tout. À aucun moment, on ne ressent une quelconque sympathie au sens de elle ressentirait les mêmes choses, elle penserait les mêmes choses. Il n'y a rien de tout ça. Moi, je trouve que ça manque vraiment. Trop d'ellipses, à mon sens. À la fois, c'est très long et en même temps, il y a beaucoup d'ellipses sur leur vie quotidienne à toutes les deux. Et à ces ellipses s'ajoute un côté farcesque quasi permanent de la mise en scène qui fait que la farce quasi permanente, avec notamment le personnage de Harvey, le producteur gros porc, machin, qui est vraiment, vraiment too much, et toutes ces ellipses contribuent, à mon sens, à déréaliser ce qui se passe et donc à affaiblir considérablement le propos. Donc, j'ai quand même terminé. Donc, ça devient finalement, ça parle de corps, mais finalement, c'est assez abstrait. Alors, puis cette façon de filmer les fesses des nanas qui font l'aérobic pendant des plombes de façon ultra vulgaire comme si c'était MTV. Enfin, là, je trouve qu'il y a vraiment trop de place accordée à des trucs qui relèvent un peu, selon moi, mais c'est un peu méchant, un peu de la pose arty. Et peut-être faire un film plus épuré, plus resserré, plus film de genre, aurait été peut-être un peu plus efficace. Néanmoins, je trouve qu'il y a des très très belles scènes. Il y a notamment une scène où Demi Moore se démaquille 40 fois de suite. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui sont dites là-dedans. Il y a vraiment de l'inspiration. Que ce soit au début l'étoile d'Hollywood Boulevard qui se craquelle, machin, que ce soit à la fin cette espèce de monstre qui vomit des nichons, des machins. À chaque fois, c'est des bonnes idées, mais à mon sens, trop étirées et avec un scénario qui, à mon avis, que je trouve bancal. Mais c'est un film que je conseillerais malgré tout, qui est quand même assez étonnant.
The Substance de Coralie Farja, c'est donc en salle à compter de mercredi prochain. On va inverser les pôles, on va évoquer un cinéaste tout autre que Coralie Farja. Trois amis, c'est le nouveau film d'Emmanuel Mouret, et on va finir cette table ronde là-dessus. C'est donc le nouveau film d'Emmanuel Mouret que j'ai eu la chance de rencontrer cette semaine. Cet entretien, figurez-vous, sera retrouvé très bientôt dans les fiches du cinéma, une revue de référence qui, le mois dernier, a fêté ses 90 ans. Mais oui, abonnez-vous, qui disait. Donc ce sera à découvrir dans le mensuel de novembre. L'argument en quelques mots, nous sommes à Lyon. Thomas, professeur de français, fait sa rentrée dans un lycée où il remplace un certain Victor, un an plus tôt. Johan, Alice et Rebecca, enseignantes dans le même lycée, sont amies. Rebecca fréquente un mystérieux homme marié. Johan n'est plus amoureuse de son compagnon, Victor, avec qui elle a une fille. Alice, quant à elle, n'a jamais été réellement amoureuse de son conjoint, Eric. Il y avait, à la fin de Chronique d'une liaison passagère, le précédent film de l'auteur, un moment très émouvant dans lequel il donnait à voir, ou plutôt à revisiter, les endroits désertés désormais où s'était déroulée l'action et où n'en restait plus que l'écho ou l'absence. Ici, il opte pour un procédé semblable, mais en ouverture du film, c'est presque une ouverture au futur antérieur. Ici, les choses vont s'être passées, nous dit-on. Et cette ouverture-là, je parle un peu trop vite, mais c'est parce que j'ai à cœur que nous ayons un petit peu de temps pour évoquer ce film que j'aime beaucoup. pour ne rien vous dévoiler, et cette ouverture-là, que permet également la voix-off du personnage de Vincent McCain, dont on comprendra bientôt d'où il nous parle, m'a aussitôt embarqué. J'ai la conviction qu'avec Le Sous-estimé, Une autre vie en 2013, le cinéma de Moret a pris de l'ampleur et que depuis, il n'est pas loin de réaliser un sans faute, cela n'engage que moi, bien sûr. Les trois amis, ce sont donc India Air, Camille Cotin et Sarah Forestier, toutes trois nouvelles venues dans le cinéma de Moret. Autour d'elles, Vincent McCain, pour sa troisième collaboration consécutive avec l'auteur, mais aussi, entre autres, Damien Bonnard et Grégoire Ludig. Et le film sera en salle à compter du 6 novembre. Francis, j'ai envie de te donner la parole, car je sais que tu es toi aussi un grand sentimental.
Amour au tien. je vais revenir alors d'abord sur ce qui m'a un peu déconcerté, ce qui est ce que toi tu mets en avant. C'est le début du film, j'avoue, ce départ avec cette voix off dont je ne sais pas d'où elle vient, qui elle représente, et sa manière finalement de s'imposer très fortement sur le récit, y compris sur ces premières scènes entre les différents protagonistes, et de carrément venir, à mon sens, et c'est là le côté film d'horreur du cinéma de Moret, attention. Non, mais venir carrément presque dévorer les scènes du début du film. Et je reconnais donc du coup un petit désarroi. J'ai pas mes repères jusqu'à ce que je découvre, effectivement, comme tu l'as signalé, que cette voix que je n'avais pas reconnue dans un premier temps est celle de Vincent McCain, déjà Edune, et donc elle représente un des personnages du film. Voilà, ça c'est pour ma petite réserve de départ et qui va s'estomper très, très rapidement. Et j'ai envie de citer un film qui, pour moi, est un des films que je préfère de Moret, qui est Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Parce que ici, j'ai l'impression que finalement, le sous-titre de Trois amis, ça pourrait être Les idées qu'on se fait. Alors, je m'explique rapidement. On est face à des protagonistes qui sont systématiquement en roue libre devant les circonvolutions amoureuses. Et on a l'impression que finalement, Emmanuel Moret prend un certain plaisir à régulièrement masquer au spectateur par une porte, par un mur, celle ou celui qui reçoit une révélation qui serait en contradiction finalement avec sa propre inclinaison sentimentale. Et finalement, nous, spectateurs, on se retrouve un petit peu comme ça, à la fois à anticiper. Donc, il joue sur un temps de décalage qui va être un moyen de comique, parce que finalement, le film s'avère drôle, alors avec subtilité, comme toujours chez Moret, j'ai envie de dire. Mais il y a ce comique, et il y a surtout ce fait de nous projeter, nous, spectateurs, aussi dans ce sous-titre, dans les idées qu'on se fait. Parce qu'on va sans arrêt se faire des idées sur ce que les personnages pensent, et parfois elles vont être contredites, ou parfois, effectivement, ah bah j'avais vu juste. Et on est vraiment là-dedans. Et je pense que c'est vraiment le sous-titre du film, c'est des personnages face aux idées qu'on se fait.
Gaël.
Alors, j'ai adoré. Je crois que c'est mon mot. Non, je ne l'ai pas vu.
J'ai pas vu. Florent.
Ouais. Moi, je suis un grand.
Je sais que je peux toujours compter sur toi pour ça.
Je suis un grand amoureux de Moret depuis longtemps et c'est quelqu'un auquel j'aime bien réfléchir en termes de cohérence dans ses œuvres. C'est quelqu'un qui fait des films depuis 25 ans aussi et qui, dans une première partie de sa carrière, était son personnage principal. Il jouait alors qu'il n'est pas acteur, que c'est quelque chose qu'il aimait très peu et qu'il a justement évacué aussi vite qu'il a pu, mais enfin ça lui a quand même pris une dizaine d'années, voire même presque 15, et où dans sa deuxième partie, il va choisir des acteurs qui, comme Vincent McCain ou comme Nils Schneider, qui vont jouer justement le rôle que lui avait l'habitude d'endosser, une espèce de grand timide un petit peu comme ça, qui avance par circonvolution dans la vie avec beaucoup de naïveté. Et c'est ce qu'il y avait de fascinant dans le premier cinéma de Moret, c'était ce côté avec ce français très châtié, cette façon d'écrire des dialogues qui ressemblaient à rien d'autre, qui faisait un petit peu désuet.
Et puis une forme de comique de situation qui a un petit peu reflué dans son cinéma depuis que lui-même s'en est retiré en tant qu'acteur.
Exactement.
On en a un petit peu parlé dans l'entretien à découvrir en novembre dans les fiches du cinéma. Vous ai-je déjà parlé de cette revue qui le mois dernier fêtait ses 90 ans. Pardon, j'arrête.
Et ça correspond à peu près à 2014-2018, ce moment où il fait Mademoiselle de Jonquière et ensuite ces deux trois derniers films, dont donc Trois amis, qui est un petit peu l'aboutissement de tout ça. Et pourquoi je parle de ça? Parce que vraiment, j'ai le sentiment, quand je vois Trois amis, quand je l'ai vu, j'étais vraiment heureux, parce que je me suis dit, là, il arrive à quelque chose qu'il essaye de mettre sur la table depuis toujours, et où on aurait pu le taxer d'une redite avec une espèce de recette bien huilée, avec souvent les mêmes acteurs, avec Frédéric Bell, avec donc lui en personnage principal, avec toujours le même le même style de personnages féminins, que ça soit Déborah François, Fanny Valette. Enfin, moi, je suis un très grand fan de Changement d'adresse où il y a quand même Danny Briand dans le film. Je trouve que c'est un choix de casting assez assez exceptionnel. Et là, on arrive à quelque chose où donc il s'est évacué de la scène et où il est dans un travail au niveau de son écriture que je trouve, mais alors, fabuleuse. Et Francis le dit excellemment bien, où on est vraiment dans... on est dans ces situations, en fait, où on croit savoir, on croit avoir compris quelque chose de la vie et de l'amour. Et en fait, chacun se retrouve au mauvais endroit, au mauvais moment, et se retrouve infirmé dans ce qu'il croyait savoir. Et le personnage clé, je trouve, dans cette histoire, c'est le personnage de Sarah Forestier, qui est un petit peu la loose de service, qui vagabonde entre plusieurs amours, qui va avec le mari de l'un, avec le mari de l'autre, qui se fait un petit peu rejeter par les uns et les autres, et qui est très contrite. C'est quelqu'un qu'on connaît solaire, qu'on connaît explosive, dans ses différents rôles, depuis qu'on la connaît chez de Keshi jusqu'à ce film-là. Et là, d'un seul coup, on est dans les 10 dernières minutes du film, et elle redevient la Sarah Forestier qu'on connaît, parce qu'elle s'est affranchie justement de ses certitudes sur ce qu'est l'amour et ce qu'est la vie. Et tout le film, comme ça, crée son petit sillon, son petit chemin pour nous amener à cette épiphanie-là. Et je trouve que ce qu'il arrive à construire dans son écriture, c'est ce qu'il recherchait depuis le départ, et qui est un aboutissement véritablement de 25 ans de cinéma. Et en ça, Trois Amis, pour moi, est vraiment un film excellemment réussi.
Je suis d'accord avec toi. Francis, est-ce que tu veux ajouter quelque chose, ou est-ce que nous passons au coup de cœur directement ?
Ah non, je pense que là, de toute façon, on a tout dit. Après, on pourrait revenir effectivement... Comme c'est le cas à chaque fois dans les films, sur le casting des films, où chacun a une très belle partition à jouer. Moi, j'ai jamais vu... Tu parlais de Sarah Forestier, mais moi, j'ai une révélation... Enfin, c'est une excellente comédienne, je le sais depuis très longtemps, peut-être depuis Guy Roddy, une fameuse scène d'accouchement. Mais Hilaire est absolument fantastique, et il lui offre un rôle qu'on ne lui a jamais vu. Et elle a un élément, elle est un peu une figure sacrificielle, comme l'était Émilie Dequen dans Les choses qu'on dit, Les choses qu'on fait, sauf que elle aussi, d'un seul coup, se retourne par rapport, elle ne se sacrifie plus, alors qu'au point de départ, on a vraiment cette sensation, on se dit, ah oui, il reproduit des choses, c'est intéressant, on retrouve les mêmes figures, ben non, parce qu'à chaque fois, justement, les idées qu'on se fait, les figures sont retournées. Et je trouve que c'est ce qui réussit, alors qu'au point de départ, oui, le film n'est pas forcément aussi, le chemin n'est pas aussi évident.
Et c'est vraiment une joie de voir que Mouret commence à avoir un petit peu de reconnaissance, qu'il s'est retrouvé en compétition à Venise. C'était la première fois qu'il faisait une compétition internationale en 25 ans de cinéma. Et alors c'est passé complètement sous le manteau, à côté de sous le tapis, à côté de d'autres grosses productions. Mais le cinéaste, il est le cinéaste, je pense, qu'il voulait être dès le départ aujourd'hui. Et on commence un petit peu à s'en rendre compte. Et ça, c'est vraiment à s'en féliciter.
Trois Amis d'Emmanuel Mouret, c'est donc à découvrir à compter du 6 novembre. Nous en venons à présent à mon moment préféré de l'émission, celui des coups de cœur. Je me tourne donc vers vous. Y a-t-il un enthousiasme que vous souhaiteriez partager avec nos auditrices, nos auditeurs ? Un livre, un album, une expo, une recette de taboulé VG, un pronostic pour l'Arsenal Liverpool de ce dimanche. Pour moi, ce sera 2-1, but Saka dans les arrêts de jeu. Et pourquoi pas un film si vous aimez tant ça, bande de sales cinéphiles. C'est à vous.
Eh ben écoute, alors oui, moi dans le droit fil du dernier film de Guy Roddy, moi je vous conseille La forêt de Trémelin. La forêt de Trémelin qui se situe dans la sympathique commune d'Inzinzac-le-Christ, près de Lorient, et où on trouve de magnifiques girolles. J'y suis allé il y a peu de temps avec des amis, et on est allé cueillir des champignons. Des chanterelles. Et sachez que la chanterelle commune n'est autre que la girole. C'était la même chose. Et alors, c'est vraiment une forêt magnifique. Tout est recouvert. T'as 3 cm de mousse sur tout. T'as l'impression d'être à la naissance du monde. Il y a une odeur d'humus. C'est fantastique. Allons tous ensemble cueillir des champignons et abattons le capitalisme. Et après, on a mangé des pâtes à la sauce aux champignons. C'était un moment merveilleux.
Merci de ce partage, Gaël. Florent.
Alors une fois n'est pas coutume, je vais pas citer un jeu vidéo, je vais citer une série qui vient de sortir qui s'appelle Cult, qui alors là on c'est la mission des coups de vieux, là pour la peine c'est les 25 ans quasiment,
enfin, de Love Story,
et tout n'est pas réussi loin de là, notamment ça, parce qu'il y a une part de fiction, des éléments qui sont romancés et notamment des personnages complètement inventés pour le pour le projet, mais c'est, je crois qu'Alexia Laroche-Joubert qui produit aussi donc la série. Pourtant, elle ne sait pas, enfin, elle n'est pas vraiment épargnée donc, par le personnage qui est joué par Anaïd Rozam, qui est une actrice vraiment intéressante, qui est pour moi une découverte au niveau de la série. Et même si il y aurait pu avoir plus, c'est une mini-série, c'est assez quand même bref, hein, il y a 5 ou 6 épisodes. On aurait plus accentuer certains points. Je trouve que ça parle très très bien de ce moment qui était quand même assez délirant, où les Canards Enchaînés avaient mis sur sa une un billet hebdomadaire pour parler de ça, ce qui n'a pas dû arriver depuis pour une émission de télé-réalité. La fièvre lofteuse, je m'en rappellerai toujours, et qui a vraiment remué le pays comme nulle part en Europe. Je crois que la France est le pays qui a le plus mal vécu l'arrivée de la télé-réalité dans son paysage audiovisuel. Et la série est plutôt pas mal là-dessus. Et puis ça, c'est aussi... c'est aussi ce magnifique personnage de Loana qui, que tout le monde connaît encore aujourd'hui, qui est quand même un destin tragique et qui est très bien mis en valeur dans la série, et qui m'a quand même fait pointer un point de regret, parce que ça m'a rappelé la magnifique série sur NTM donc du couple Elie Cisterne et Katel qui les verrait. Et je me dis, si c'est eux qui avaient fait ça, je pense qu'on aurait eu encore un autre niveau de narration. Mais vraiment, c'est déjà pas mal, je recommande de la regarder.
Oui, Francis.
Je voulais juste apporter un complément, parce que j'ai pas vu la série, mais j'en étais très curieux, parce que, entre autres, donc, Loana est interprétée par Marie Colombe. Ouais. Et je pense que là, puisqu'on cite des acteurs, des actrices depuis tout à l'heure, que c'est important de la citer, parce que je pense que c'est une actrice qui prend de l'ampleur depuis Les Magnétiques, qui était sa première apparition remarquée, et depuis son film aux côtés de Denis Ménochet et Marina Foïs, dont d'un seul coup j'ai oublié le titre, Asbestas. Voilà. Et voilà. Pour cet aspect là aussi, je pense qu'on est face à une actrice qui prend énormément d'ampleur et qu'il faut la citer.
Florent, Gaël, merci à vous. Vous avez été excellent et ça ne nous étonne même plus. Cela vaut aussi pour toi, Francis, évidemment. Chères auditrices, chers auditeurs, on se retrouve donc le mois prochain, samedi 23 novembre, même heure, pour vous parler de cinéma et vous passer de la musique. Et à ce sujet, Francis, je te rends l'antenne.
Eh bien, je vous remercie tous les trois pour votre présence et votre... Et vos propos, on va se quitter donc avec le deuxième album du mois, hein, puisque donc.